Alors, bienvenue pour ce webinaire. On va parler ensemble de l'intelligence artificielle. On verra l'IA en pratique dans le centre de contact, comment automatiser, assister et analyser. Alors, au sommaire de ces 45 minutes, donc on va voir ensemble qui est Eloquent, éditeur de solutions de centre de contact et d'enquête de satisfaction client et collaborateur. On verra ensuite la partie IA dans la relation client, qu'est-ce que ça change, où il faut l'intégrer dans le parcours client. On verra également la partie IA classique, puisqu'on parle beaucoup d'IA générative, mais l'IA classique est quand même quelque chose qui reste simple, efficace et surtout pas cher. Le dernier point, ça sera bien sûr de mettre en place l'IA générative. Et l'IA générative se mettra de plusieurs manières. On verra la partie IA générative vocale. Vous verrez, la partie vidéo arrive bientôt, mais déjà la partie vocale est déjà arrivée. Et ça permet en fait d'apporter plus d'humains et plus de relationnel dans un parcours client. On verra bien sûr après les bots que vous connaissez tous, hein, vous les avez expérimentés depuis quelques années. Et là, l'IA générative fait vraiment passer d'un niveau au niveau des bots. Moi, ce que je dis toujours, c'est que il y a avant l'IA générative, grosso modo, le niveau c'était celui d'un enfant de 6 ans où il fallait tout lui expliquer, il fallait tout lui détailler. Et maintenant, avec l'IA générative, on arrive à des robots qui ont des capacités d'une personne de 18 ans. Donc, quelqu'un qui connaît bien tous les sujets, mais qui peut parfois se tromper. À la fin, on parlera également du low-tech, puisque là, on va vraiment parler d'intelligence artificielle qui est du high-tech, avec des technologies quand même relativement complexes, onéreuses, coûteuses. Et ben, en fait, on verra que parfois, en utilisant du low-tech, on arrive à des résultats similaires, voire parfois proches, voire meilleurs, avec des budgets qui sont 4, 5 fois inférieurs. Donc voilà, on est surtout à penser que la technologie doit être utile avant d'utiliser la techno pour la techno. Alors, à la fin, nous aurons une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, le chat est à votre disposition. Vous l'avez sur la droite de votre écran. Posez vos questions dès qu'il y a quelque chose qui vous passe par la tête. Et si vous avez besoin d'avoir un exemple pratique dans votre secteur d'activité, dites-le moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais donc, je m'appelle Frédéric Canevet, je suis responsable des projets digitaux chez Locan. J'ai également été product manager bot pendant très longtemps et j'ai écrit un bouquin en 2018, juste avant l'IA générative, qui s'appelait Réussir son projet chatbot aux éditions Dunod. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit sondage dès le départ. Donc, vous avez sur votre écran, sur la droite, un sondage où je vous pose une question simple. Est-ce que vous avez déjà mis en place de l'IA générative dans votre centre de contact? Alors, vous pouvez répondre oui si vous l'avez mis, par exemple, avec un chatbot, un callbot, de l'agent assist hein, pour aider le conseiller à être plus efficace. Est-ce que vous avez fait, par exemple, de l'analyse de conversation, de l'analyse sémantique? Oui, mais vous avez peut-être fait autre chose, par exemple, du mailbot, quand on répond de manière automatique à des messages par mail. Ou alors, si vous n'avez pas encore mis en place, est-ce que c'est prévu à court terme, à moyen terme, ou c'est pas encore prévu? Voilà, donc n'hésitez pas. Je vais laisser en fait l'écran encore ouvert et avec le sondage ouvert encore quelques minutes. Et en attendant que vous puissiez répondre, je vais avancer dans la présentation. Je vous commenterai les résultats juste après. Alors, je vais déjà présenter Eloquent. Donc, Eloquent, donc on est éditeur de solutions de centres de contact et d'enquête de satisfaction, clients et collaborateurs. Donc, notre métier, c'est tout simplement d'aider les entreprises à mieux gérer, à mieux orchestrer et à mesurer et améliorer les conversations avec leurs clients. Donc, pour cela, on propose une plateforme cloud d'expérience client qui se compose en fait d'une solution de centre de contact et de voix du client et du collaborateur. Donc, bien entendu, ces solutions peuvent être achetées de manière séparée. Donc, par exemple, je veux uniquement le centre de contact ou je veux uniquement le feedback. Mais ce que nous, on recommande, c'est d'avoir la solution totale, une plateforme cloud d'expérience client qui va mêler en fait les deux et qui vous permettra non seulement d'écouter vos clients, mais également de pouvoir dialoguer de manière efficace avec eux. Donc, on gère à peu près un demi-milliard d'interactions chaque année, que ce soit du téléphone, du chat, du mail, du SMS, du callbot, du chatbot, etc., etc. On envoie 150 millions d'enquêtes de satisfaction. Par exemple, si vous allez dans un espace SFR, si vous allez chez Orange, et ben en fait, à chaque fois que vous allez en boutique, vous recevez après un SMS d'enquête de satisfaction. Si vous êtes livré par Geodis, c'est nous. Si vous appelez, que vous n'avez plus d'électricité et que vous devez appeler le service technique d'Enedis, c'est également nous qui sommes derrière ces personnes-là. Donc, on a une centaine d'experts en France, il y en a plus de 320 clients. Voilà, donc notre plateforme cloud, en fait, c'est centré avec un orchestrateur omnicanal qui va permettre de gérer les conversations, voix classique et digitale. On va faire du self-care avec du chatbot, du callbot, du SVA visuel. On va piloter l'efficacité. Et puis, on va faire de la voix du client et du collaborateur pour écouter ses clients, avoir des feedbacks, par exemple, publier des avis sur Trustpilot, Google, etc. Mais également pouvoir analyser les parcours clients pour les optimiser grâce à l'intelligence artificielle en particulier. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on aborde maintenant la partie un petit peu plus concrète avec les défis qui sont en cours, en fait, pour les responsables de centre de contact, hein. La première chose, c'est qu'on demande à tout le monde, c'est de fluidifier l'expérience client, fluidifier le parcours client. En même temps, on demande d'avoir des collaborateurs engagés qui soient vraiment contents de faire leur métier, qui soient convaincus d'aider les personnes. Et pourtant, d'un autre côté, ça peut paraître une injonction contradictoire, mais donc on demande de maîtriser les coûts, en particulier avec les coûts de l'énergie qui augmentent beaucoup dans les centres de contact. On demande aussi d'avoir du self-care de plus en plus parce que les gens ils veulent plus attendre au téléphone. Les nouvelles générations aussi sont très férues de messaging, d'outils comme WhatsApp pour communiquer et ne veulent plus forcément appeler au téléphone. Donc il faut répondre à ces nouveaux enjeux-là. Et en même temps, bah, voilà, il y a des anticipations à faire sur la maîtrise des coûts aussi qui est essentielle, le recrutement également au centre de contact. Donc là, en fait, c'est des enjeux importants et justement, l'intelligence artificielle va agir à ces différents niveaux-là. Donc, aider à fluidifier l'expérience client, avoir des collaborateurs plus engagés en mettant des enquêtes et en analysant les feedbacks de manière automatique, en maîtrisant les coûts, en ayant un bot qui permet de gérer des pics d'activité, mais au contraire, d'avoir aussi de l'humain au bon moment. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie sondage et je regarde en fait, hop, ici. Où on en est? Alors, il y a eu quelques réponses. Grosso modo, il y a 26% des gens qui disent que non, ils n'ont pas encore mis de projet bot ou IA générative en place. À court terme, c'est prévu. Non, mais c'est prévu à moyen terme. 26%, par contre, ne sont pas encore, n'ont pas encore prévu. Là, je vois, ça, par contre, j'espère que ce petit webinaire qu'on va avoir ensemble va vous décider et faire en sorte que ces 26% de personnes qui disent non, c'est pas prévu, ben, prennent conscience que tout simplement mettre en place l'IA générative et l'IA classique dans un centre de contact, ça devient vraiment indispensable. Donc voilà, j'arrête le sondage tout de suite et je vais passer maintenant au concret. Alors, donc l'IA dans la relation client. Donc nous, notre philosophie chez Eloquence, c'est que l'IA doit être au service de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, on ne va pas faire de l'IA pour de l'IA, parce qu'en fait, si on met uniquement de la techno pour la techno, on va arriver à un phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on va être déceptif et on va nuire à l'expérience client au lieu justement de l'améliorer. Et ça, on l'a vu. Par exemple, dans l'étude élu service client de l'année qui est parue l'année dernière, donc en 2023, à chaque fois, ils font un point en disant, voilà, quels sont les canaux qui ont le plus de croissance. Et le canal qui a le plus de croissance, c'est les chatbots. Donc on voit qu'il y a eu un développement majeur des chatbots. Or, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, le canal qui offre la moins bonne satisfaction auprès des utilisateurs, c'est le chatbot, avec seulement 52% de personnes qui sont satisfaites. Donc, une personne sur deux à peu près satisfaite des chatbots, alors que c'est le canal le plus en croissance. À l'inverse, le téléphone, qui est le canal classique, un peu traditionnel, c'est celui qui offre la plus grande satisfaction avec 82% de clients satisfaits. Voilà, pourquoi on arrive à un taux d'insatisfaction aussi important? C'est tout simplement parce que ces personnes-là, ces entreprises-là, ont mis en place des chatbots et des callbots qui ne sont pas conçus pour le client et qui cherchent avant tout à automatiser sans penser expérience client, sans penser complémentarité humain et machine. C'est pour ça que nous, chez Eloquent, par exemple, lorsqu'on a un callbot au téléphone, eh ben, on dit toujours, au bout de deux incompréhensions ou deux personnes qui disent je ne comprends pas, etc., il faut automatiquement passer à un humain. On a cette philosophie-là qui est l'humain et le bot sont complémentaires. Voilà. Donc, c'est ça qui est essentiel à retenir. L'automatisation, pour l'automatisation, ça ne sert à rien. L'autre point, c'est qu'en fait, il y a différents types d'IA. On parle beaucoup donc d'IA générative. L'IA générative permet donc d'analyser des grosses masses de données, des FAQ, des emails, des chats, etc., etc., et de permettre à partir de ces éléments-là d'avoir des réponses personnalisées. Mais ce n'est pas les seules intelligences artificielles qui existent. Il y a par exemple l'intelligence artificielle descriptive qui va permettre de catégoriser en temps réel des données et qui est beaucoup moins coûteuse et qui est tout aussi efficace. On va pouvoir également utiliser de l'IA conversationnelle classique, chatbot, callbot, qui est complémentaire à l'IA générative. Parce que l'IA générative, bon, oui, on va pouvoir lui donner la possibilité d'analyser et de comprendre des gros volumes de données, mais avec l'IA classique, bah, en fait, on va pouvoir avoir une réponse qui va être beaucoup plus précise et sûre. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux avoir mon solde de facture, si je veux avoir des informations sur parler à un service technique, je n'ai pas besoin d'avoir une réponse qui est très compliquée. Je veux une réponse immédiate, quelque chose qui va tout de suite aller à l'essentiel avec une réponse qui est très cadrée. Et c'est moi qui ai écrit ce texte-là et ce n'est pas l'IA qui l'a inventé. Et donc là, l'IA classique est intéressante. Et pour nous, on voit bien que les deux sont complémentaires. L'IA classique est complémentaire à l'IA générative pour des raisons de coût, d'efficacité et de pertinence de la réponse. Alors bien sûr, on va aller plus loin, on va faire de l'analyse émotionnelle, l'analyse des sentiments. Par exemple, on lance une enquête de satisfaction et après, au lieu de se dire, bah, tiens, voilà, est-ce que la note explique tout, on va pouvoir analyser ce que dit la personne et en déduire quel est son sentiment. Voilà. Et on peut faire aussi du prédictif pour savoir en fait les clients qui vont, par exemple, churner, qui vont quitter l'entreprise selon ce qu'ils disent, leur comportement, etc. etc. Voilà. Donc ça, il y a différents types d'IA qu'on va intégrer dans la solution de centre de contact. Donc justement, je voulais commencer par cette partie IA classique. L'IA classique, grosso modo, c'est, on va dire, entre 4, 5 fois, 10 fois moins cher que l'IA générative. Et pourtant, ça peut être tout aussi efficace. En particulier dans l'analyse des verbatims et des parcours clients. Ici, vous avez à l'écran, par exemple, l'analyse d'enquête de satisfaction. L'intérêt, en fait, pour nous, c'est d'aller récupérer donc, de manière omnicanale des informations. On a, par exemple, le cas avec Vinci Autoroute, qui numérise des courriers papier, qui numérise en fait des, qui envoie des données digitalisées, déjà du chat, qu'ils envoient des emails, ils envoient des enquêtes de satisfaction, etc. Et ils envoient tout ça dans la solution, qui va permettre d'aller détecter, soit en fait ce qu'on appelle l'aiguille dans une boule de botte de foin, c'est-à-dire qu'on va détecter ces petits gestes, ces actions, toutes ces petites choses, ces attentions qui font que les clients vont être soit hyper satisfaits ou soit au contraire très insatisfaits. Ça permet de détecter, par exemple, des mauvais comportements ou au contraire de très bons comportements qu'il va falloir généraliser. On avait un exemple avec un de nos clients dans le domaine du transport et qui voyait en fait que certaines fois, des clients avaient une notation et des vocabulaires et des mots qui étaient extrêmement forts, tout simplement parce que le livreur, au lieu de simplement livrer à la porte de l'entreprise ou du particulier, bah, prenait le colis et le montait à l'étage. Il disait, voilà, je vous aide. Et parfois, il faisait un service de déballage et de vérification. Et tout ça, bam, ça faisait un pic de satisfaction qui était vraiment très, très au-dessus de la moyenne, mais c'était pratiqué que par une toute petite partie des chauffeurs-livreurs. Et donc, en fait, ils se sont dit, mais waouh, il y a quelque chose à faire. Et ils ont développé comme ça un service de montée à l'étage et de vérification des colis. Alors, ce service n'est pas payé par les particuliers ou les entreprises qui reçoivent les colis, mais par les donneurs d'ordre. C'est une option qu'ils peuvent déployer. Et justement, des fois, on voit bien qu'il y a des insatisfactions qui remontent des enquêtes de satisfaction. Et ils utilisent ça en disant, hey, regardez, vous avez des insatisfactions parce que vous n'avez pas pris cette option de monter à l'étage. Vous devriez le prendre parce qu'on a des clients qui sont très intéressés là-dessus. Voilà. Donc, tout cela, en fait, ça permet d'aller optimiser son parcours client et d'aller analyser toutes les informations, que ce soit donc des conversations téléphoniques, du chat, du mail, etc. etc. Donc, ça améliore la satisfaction et ça améliore les parcours clients. Deuxième point, donc l'analyse des émotions, j'en ai parlé tout à l'heure. L'analyse des émotions est vraiment importante pour prioriser les choses. Là, je vous ai mis un exemple assez concret, assez pratique. Dans notre solution de centre de contact, lorsqu'on reçoit des mails, eh bien, tout simplement, on va pouvoir identifier les personnes qui ne sont pas du tout contentes, qui sont par exemple en menace de résiliation, menace d'avocat, etc. etc. Et bien, à ce moment-là, hop, on va pouvoir les identifier et ils vont pouvoir être traités de manière prioritaire par les agents. Également, cette analyse des émotions peut servir à faire de l'alerting, c'est-à-dire que ben, les personnes vont envoyer des emails, ils vont envoyer des courriers, des enquêtes de satisfaction. On va pouvoir dire, attention, aujourd'hui, il y a quelque chose à faire de manière importante et tout de suite, il faut que tu passes à l'action. Et ça, on l'a vu, ça fonctionne bien quand on traite vraiment rapidement et immédiatement cette insatisfaction. On a le cas, par exemple, avec Bouygues Télécom Entreprise, qui a un record de 13 minutes entre le moment où l'insatisfaction a été détectée et le moment où la personne a été rappelée par l'agence. Et là, ils nous ont dit, cet aspect rapidité crée un facteur waouh. Le client se sent écouté et il se sent vraiment au sujet des petits soins des équipes. Donc, vraiment essentiel, c'est pouvoir détecter de manière automatique. Et ça, en fait, l'intelligence artificielle permet de gagner en productivité. Et quand vous avez quelqu'un qui vous rappelle 10 minutes après que vous avez mis une enquête de satisfaction négative, bah, là, tout de suite, vous dites, waouh, je suis vraiment écouté, merci, voilà, vous faites de votre mieux, etc. etc. Rien que le fait d'être écouté est essentiel. Donc là, c'était la petite partie de rappel sur l'IA classique, hein, qui est quand même essentielle à mettre en place et qui reste toujours très intéressante. Maintenant, on va voir les derniers développements de l'IA générative. En particulier, on va voir l'IA vocale. L'IA générative vocale, en fait, permet de faire un accueil plus humain. Alors, je pense que vous avez déjà appelé des services clients ou des entreprises, vous avez ce fameux SVI, service vocal interactif, un serveur vocal interactif, où on dit taper 1, taper 2, taper 3, avec cette voix un petit peu robotisée. Et bien désormais, avec l'IA générative, on va pouvoir avoir des voix qui vont être tout à fait naturelles. C'est-à-dire qu'on le voit chez nous, chez certains de nos clients, quand on met en place cette voix-là, les gens pensent en fait qu'ils parlent à quelqu'un. Donc on leur dit, bon bonjour, pourriez-vous nous dire quelle est votre demande? Et les personnes en fait disent, bah voilà, je veux parler à tel service. Et ils ont l'impression en fait qu'ils parlent à des personnes, des vraies personnes. Et c'est vrai qu'on a eu des situations un peu cocasses. Bah, des fois, le bot, il ne sait pas tout répondre, hein, c'est pas tout à fait infaillible. Et quand ils sont ensuite transférés à un agent, ils disent, ah là là, votre collègue, elle ne comprenait rien, j'ai dû lui parler plusieurs fois, etc. Donc on arrive comme ça à avoir des voix qui ressemblent de plus en plus à une voix naturelle. Ce qui est intéressant parce que on n'est plus en fait dans cet aspect voix robotisée où le client en fait doit vraiment porter en fait son attention, c'est lui qui doit agir. Non, on est là, on est à son écoute, c'est lui qui parle. Alors l'avantage, bien sûr, ça permet d'avoir vraiment une interaction qui est beaucoup plus naturelle. Ça permet aussi d'avoir une marque, c'est-à-dire que vous pouvez créer une identité visuelle unique pour votre entreprise. Avec l'IA générative, on a la possibilité de cloner une voix. Donc nous, on a une bibliothèque de 30 voix qui sont tout à fait naturelles, des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes anciennes. On a même une voix suave, très, très, très sexy que l'on peut utiliser. Donc en fait, on a comme ça la possibilité donc d'utiliser des voix dans une bibliothèque, mais on peut aussi cloner des voix. C'est-à-dire que si vous voulez créer une identité vocale pour votre entreprise, on peut le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette identité vocale de l'entreprise, on peut après ensuite la cloner en différentes langues. C'est-à-dire qu'une fois que la personne, elle a parlé pendant 1 minute à peu près sur son téléphone ou sur un enregistrement avec un micro, on clone sa voix et donc on peut lui faire dire tout ce que l'on veut. Et après, dans toutes les langues, c'est-à-dire que je me suis amusé à me cloner en français, en anglais, en russe, en allemand, etc., etc. Et ça donne comme ça la même consistance. Donc, bien entendu, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, faire une voix personnalisée pour le service client. Donc, la responsable du service client qui dit « Bonjour, je suis Frédéric Canevet, je suis responsable du service client. Vous pouvez parler à mes équipes en disant telle chose, etc., etc. » Et on peut encore baisser d'un niveau. Et à ce moment-là, on peut même faire un accueil personnalisé par agent. C'est-à-dire que chaque agent pourra avoir une boîte qui va dire bonjour, je suis Frédéric Canevet, rappelez-moi plus tard, etc. Ou je passe mon collègue, etc., etc. Donc vraiment, on ajoute de la proximité, de l'effet wow. Donc si vous voulez regarder un peu à quoi ça ressemble, je vous ai mis ici sur l'écran un petit lien que je vais vous mettre ici dans le chat qui permet tout simplement d'écouter ces voix-là. Donc je suis tout simplement cloné. Moi-même. Donc, j'ai cloné ma voix et j'ai cloné également ceux d'un personnage célèbre. Alors, je pense que vous devriez la reconnaître. Alors, je vais vous la mettre tout de suite dans le chat. Donc, ceux qui auront reconnu la voix célèbre d'une personne publique dans le chat me disent. Donc, j'ai mis le lien de téléchargement. Donc, vous pouvez télécharger. Donc, il y a ma voix, moi, la voix de mes collègues et la voix d'un personnage célèbre. Donc, tout simplement, bon, bien sûr. La voix du personnage célèbre, on n'aura pas le loisir de l'utiliser à titre professionnel. C'est plus pour un titre humoristique. Mais les deux autres voix, c'est pour vous montrer que je peux cloner directement ma voix, ce qui est assez sympa et qui permet en fait de créer cette fameuse proximité. Parce qu'on parle beaucoup en fait d'agents dédiés, et bien là, en fait, on va vraiment faire de l'accueil dédié. Alors maintenant, on va passer au chatbot et au callbot. Les chatbots et les callbots sont pour nous en fait des nouveaux collègues, des agents. Pour nous, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut analyser les interactions au centre de contact. Pour nous, il y a 4 types d'interactions. Les interactions polluantes qu'il faut réduire, supprimer ou filtrer. Par exemple, je donne le cas encore d'Enedis. Il y a personne, en fait, appelle au numéro de téléphone d'Enedis et disent, voilà, j'ai un problème sur ma facture électrique, en fait, ma facture d'électricité, je paye trop cher, j'ai un problème de prix, etc. Et bien là, ce n'est pas Enedis qui gère, c'est le fournisseur d'électricité. Donc, dès qu'il y a cet élément-là, on dit, ben non, ce n'est pas nous qui gérons. Allez appeler votre fournisseur. Donc, hop, on élimine ces interactions polluantes. Deuxième chose, des interactions à faible valeur ajoutée. Ou tout simplement, là, on va laisser le bot jouer parce qu'on va pouvoir, par exemple, faire des pics d'appels. On a le cas, par exemple, dans le domaine des mutuelles et assurances, la carte de tiers payant, et ben, tout simplement, ben, il y a un pic d'appel qui se fait parce qu'à la fin de l'année, on a tous une nouvelle carte. Ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un au téléphone pour avoir sa carte. Donc là, tout simplement, le bot peut l'envoyer. Pareil, par exemple, si on fait une déclaration de sinistre, c'est quand même mieux de faire une déclaration 24 heures sur 24 avec un bot au lieu que d'attendre que ce soit des horaires de bureau qui soient ouverts et qu'on doive parler à une personne, etc. Le bot peut le faire de manière aussi simple. Troisième chose, les interactions à valeur ajoutée. Là, sont à conserver. On va au contraire améliorer en formant les agents, en sensibilisant sur la partie écoute, empathie, etc. etc. Et ça, c'est vraiment important. On les garde, celles-là. Les derniers points, c'est les interactions génératrices de valeur, d'émotion. Et là, sont des interactions à développer. Avec tout le temps gagné au niveau des interactions polluantes et interactions qui seront automatisables, en fait, tout simplement, on va permettre aux agents d'aller faire de l'appel sortant. Par exemple, féliciter les promoteurs, gérer les appels cocooning. Par exemple, les clients qui ont souscrit un abonnement, on fait un petit appel cocooning le jour J, ou par exemple un appel cocooning 3 mois plus tard pour vérifier comment ça se passe, ou alors 3 mois avant la fin de la souscription pour justement faire en sorte que la personne renouvelle son contrat. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes, des appels anti-chat. Alors, pourquoi on va mettre en place des bots en IA générative? On a parlé tout à l'heure de l'IA classique. L'IA classique, en fait, nécessitait de créer à chaque fois des questions, des réponses, etc. Avec l'IA générative, on va pouvoir lui donner à manger des emails, des chats, des fichiers, des FAQ, des procédures, des sites, des URL de sites web, etc., etc. Et il va comprendre tout ça. Donc, on a vraiment un large scope. Au lieu de créer des réponses et des questions, hop, et bien tout simplement, on lui donne tout ça à manger et il assimile tout et il fait des réponses. On a souvent plus de pertinence. Parce qu'en fait, tout simplement, on va mettre à jour, on va lui envoyer des informations. Si des pages changent, le chatbot continue d'apprendre. Souvent également, au niveau de la mise en place, c'est moins cher. Puisqu'en fait, on va diminuer le temps d'implémentation d'un chatbot à peu près par 2. Donc en fait, 2 fois moins cher pour mettre en place un chatbot par rapport à un chatbot classique. Donc c'est vraiment un gain de temps. Donc ça fait aussi des conversations moins robotisées et plus de dialogue et plus de contexte. Parce que le bot va se souvenir de ce qui a été dit auparavant. Donc quelque chose qui est assez intéressant. En revanche, ça ne veut pas dire, comme je le disais, que l'IA classique est morte. L'IA classique avec des détections de mots-clés, avec des boutons, etc., n'est pas morte parce que tout simplement, l'IA classique permet de répondre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement en respectant exactement la charte graphique et les réponses. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que dans un chatbot, on va mettre du chatbot en IA classique pour des boutons, pour des réponses classiques, et on va mettre du chatbot en IA génératif pour des questions un peu plus larges. Donc, les deux sont complémentaires. Voilà. Alors, les callbots, donc c'est les agents au téléphone. Donc, l'intérêt, je l'ai indiqué précédemment, c'est d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, offrir un service client 24 heures sur 24, traiter les demandes simples et, pourquoi pas, en fait, assister l'agent. Par exemple, quand les gens appellent au téléphone, on va pouvoir dire au chatbot, ben, demande à la personne ce qu'elle veut. Bonjour, j'appelle parce que j'ai un problème avec ma chaudière, mon chauffage, etc., etc., etc. Donc, la personne parle de son problème. Cette conversation est affichée à l'agent lorsqu'il prend la conversation téléphonique. Il a la catégorisation, c'est un problème de chaudière. La personne a déjà indiqué ça, donc il a déjà un petit peu préparé son discours et pour dire bonjour, vous m'appelez pour telle chose, donc ce qui permet d'avoir un meilleur accueil. Donc généralement, en mettant en place un callbot, on arrive à automatiser entre 5 et 20% des appels, donc ce qui est quand même assez intéressant. Donc, le callbot a quand même un coût non négligeable. On parle quand même de factures projet pour la mise en place d'un minimum de, on va dire, de 20 à 30 000 euros pour mettre en place un callbot. Donc, il faut quand même un minimum d'appels. On parle souvent de 100 appels automatisables par jour pour qu'un callbot soit intéressant. Voilà. Donc, vraiment, c'est là, en fait, pour mettre en place un callbot dans tout ce qui est demande simple et sans valeur ajoutée. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure d'un de nos clients qui s'appelle Edelis, qui utilise en fait le callbot pour traiter une partie des demandes. En mettant en place un callbot et de l'envoi de SMS, du jour au lendemain, pour des demandes qui étaient très fréquentes et très courantes, par exemple pour tout ce qui était relevé de compteur Linky, d'un coup, d'un seul, on a 5 à 10% des appels qui ont été éliminés tout d'un coup. Donc voilà, c'est quelque chose Edelis qui gère quasiment plusieurs dizaines de milliers d'appels tous les jours. Si on vous dit 5%, 5-10% des appels qui sont éliminés tous les jours, ce n'est pas négligeable et ça permet d'améliorer la fluidité puisqu'en fait, c'est des appels qui ne seront pas traités par les humains et qui permettront justement de garder plus de temps à l'écoute des collaborateurs et des clients et d'être vraiment en capacité de gérer plus de demandes. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut vraiment gérer les deux, de l'humain et du conseiller et du bot. Alors, le chatbot, nous, notre philosophie, le chatbot, en fait, c'est simple, hein, c'est quand il y a besoin de répondre à des questions de premier niveau, de faire un support technique simple, également des réponses marketing, des infos produits, des demandes de doc, des tarifs, etc., etc., mais également de l'assistance à l'agent pour qualifier une demande avant, tout simplement, le transfert vers l'agent. Donc, nous, notre philosophie, elle est très simple, c'est qu'on va mettre un premier niveau d'IA classique, donc pour tout ce qui est demande de demo, etc. L'IA générative à partir des FAQ pour des demandes un peu plus exotiques ou des demandes un peu plus larges sur les services clients. Et après, bien entendu, le troisième niveau, c'est passer vers un agent en chat, parce qu'on ne va jamais laisser un client en boucle avec un chatbot, ça c'est contre-productif et au contraire, ça va nuire à l'expérience client. Donc, généralement, un chatbot, c'est intéressant lorsqu'on met en place et qu'on peut automatiser environ 25 demandes par jour. Voilà. Donc, également, le chatbot vraiment a toute sa valeur lorsqu'on se connecte au système d'information et on va pouvoir faire des demandes personnalisées. Par exemple, quel est mon solde de compte? Est-ce que j'ai ma commande a été livrée? Est-ce que je peux annuler une commande? Est-ce que je peux déplacer un rendez-vous? Donc, c'est là où on a vraiment de la valeur ajoutée lorsqu'on va aller au-delà de la simple FAQ. Voilà. Alors, un exemple simple, là, ici, donc, on a eu un témoignage récemment d'un société Hublot qui nous a expliqué qu'ils avaient mis en place donc, un chatbot qui fait du chat. Qui fait du chatbot en IA générative et du chatbot en IA classique. Donc, tout est mis en même temps. Donc, le but, en fait, c'est d'aller répondre à ces demandes un petit peu compliquées. Donc, ils ont fait tout simplement du scrapping, c'est-à-dire qu'ils ont analysé tous les articles de blog et, en fait, les présentations commerciales, les fiches produits, les procédures, les documents internes, les documents de cadrage, de projet, etc., etc. Et ça leur permet, en fait, de répondre à toutes les demandes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que ce chatbot a été la première source de leads. Il génère 7 fois plus de demandes de démonstration et de demandes de contact que la page contact du blog. Le petit bouton « Je veux une démo », et ben en fait, il en génère beaucoup plus parce que c'est conversationnel, les gens discutent, etc., etc. Au niveau du bot, si vous le testez également, vous verrez en fait qu'il est capable en fait de répondre à des demandes complètement hors sujet sur la partie produit, mais qui étaient évoquées dans la partie blog. Par exemple, si vous lui demandez, ben tiens, je suis propriétaire, un de mes locataires qui est dans mon logement je veux donner congé, quel est le délai? Et ben en fait, il va dire, ben voilà, c'est 6 mois. Si c'est en meublé, il va comprendre après que c'est 3 mois. Tout simplement, ça c'est lié à un article de blog qu'ils ont fait sur ce sujet-là et qui a été assimilé par le chatbot. Alors, là maintenant, on a parlé donc d'automatisation avec le chatbot, le callbot, mais c'est également important que l'intelligence artificielle aide les agents à être plus efficaces. Donc là, en fait, on va les aider à être plus efficaces avec l'IA générative. Alors, le premier point, chose qu'on voit qui est vraiment le plus efficace, c'est la réponse automatique au bot. En fait, tout simplement, on le voit dans le centre de contact, il y a des nouveaux agents qui arrivent, qui n'ont pas forcément la connaissance et la compétence des agents qui sont seniors. Et bien, tout simplement, avec un callbot, l'IA générative, on va pouvoir prendre le contenu de l'email, l'IA générative va tout simplement l'analyser et va dire, bah, tiens, la personne, elle a dit telle chose. On va pouvoir proposer en fait une réponse personnalisée par rapport à cette demande et tout simplement le conseiller va ensuite pouvoir personnaliser la réponse en disant tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, non, je vais changer telle chose. Et voilà. Donc ça sera un mail qui sera vraiment personnalisé avec la charte éditoriale du service client. Est-ce qu'il faut dire bonjour, est-ce qu'il faut tutoyer, est-ce qu'il faut vous voyez, est-ce qu'il faut donner des informations complémentaires, etc. Donc ça aide également les agents avec une faiblesse en orthographe parce qu'on voit bien que dans les centres de contact, les gens sont nativement bons à l'oral, mais sur la partie écrit, il y a quand même quelques faiblesses. Donc là, ça permet de passer d'une culture vraiment très orale à une culture d'écrit avec un orthographe parfait, puisqu'en fait, les personnes qui écrivent là ont un modèle, une trame qu'ils ont juste à personnaliser de manière très simple. Donc ça permet de structurer les réponses. Et puis voilà, on l'a vu également, c'est assez intéressant lorsqu'on fait appel à des outsourceurs, puisqu'en fait là, on est sûr de la réponse, on est également sûr de la qualité, puisqu'en fait la base de connaissances est dans l'entreprise. Donc c'est vraiment assez sympathique. Donc là, nous ce qu'on fait dans ces cas-là, on va tout simplement intégrer dans la solution de centre de contact cette possibilité-là, avec bien sûr une privatisation des réponses, puisqu'en fait ces données-là sont hébergées dans une version privée de ChatGPT qui s'appelle Azure OpenAI. Donc vos données personnelles ne sont pas partagées avec les autres personnes, c'est vraiment concentré sur votre entreprise et elles ne sont pas divulguées, donc vos connaissances et tout votre savoir n'est pas diffusé ailleurs. Vous voyez ici un exemple, on a ici un exemple assez basique. Une personne en fait qui envoie une demande de déclaration, là ici donc on analyse son mail et la petite partie là en bleu permet tout simplement d'avoir la réponse personnalisée. L'agent après va modifier pour simplement se dire bah, tiens, je vais changer telle chose parce que c'est ma connaissance. L'autre point également, l'agent va être beaucoup aidé lorsqu'on va pouvoir lui faire gagner en productivité, en particulier au niveau de la transcription des interactions. Les personnes, en fait, quand ils sont au centre de contact et qu'elles discutent avec un client, ben, qu'est-ce qui se passe? Elles discutent avec elles. Et puis après, il y a tout ce qui est l'aspect post-traitement. C'est-à-dire que vous appelez au téléphone, mais après, derrière, l'agent, il dit, ben voilà, la personne m'a appelé pour tel problème et j'ai fait telle chose. Le truc, en fait, c'est comme ben, ils ont un temps limité et souvent, il y a des appels qui sont en attente. On ne peut pas, en fait, prendre trop de temps pour ce travail post-interaction. Et donc, souvent, les agents écrivent vraiment des abréviations, des choses pas très lisibles et pas très exploitables. Avec la transcription et le résumé des conversations. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre la conversation téléphonique qui sera faite entre l'agent et le client. On va la résumer de manière synthétique avec, bien sûr, les informations qui sont importantes. Par exemple, on peut dire, mets-moi le plan d'action, dis-moi si le client a dit OK, etc., etc. Donc, en fait, on va pouvoir avoir ces informations-là. Et donc, l'agent n'aura jusqu'à modifier, ajouter des petites choses, et puis c'est tout. Donc, pour lui, c'est vraiment un gain de temps. Ça permet de réduire la durée moyenne de traitement, la DMT, d'enrichir également les informations. Puisque au lieu d'avoir un requêtage qui est quasi inexploitable, puisqu'on n'a que des abréviations, des phrases très courtes, là, en fait, on va vraiment avoir un résumé, ce qui va permettre après aux outils d'analyse sémantique classique ou générative d'aller analyser ça et d'analyser toute cette richesse conversationnelle qu'il y a dans les conversations téléphoniques entre clients et les agents. Ce qui permet d'identifier du coaching, par exemple, à effectuer sur des agents qui ne maîtrisent pas bien les produits, les services, etc. Ça permet aussi d'aller identifier des points noirs dans le parcours client, des choses qui ne sont pas comprises, etc., etc. Donc là, toute cette partie téléphonique qui n'était pas tout le temps forcément très exploitée ou très exploitable, là maintenant, on va pouvoir analyser et identifier les informations importantes dans ces conversations téléphoniques pour en tirer des pistes d'amélioration continue. Donc, ça permet également aussi d'aller remplir en temps réel le CRM ou la solution de centre de contact avec les informations, compte rendu de rendez-vous, compte rendu d'appel, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, généralement, ces outils-là, nous, on recommande quand même d'avoir entre 25 et 50 agents ou commerciaux terrain, puisque en fait, bon, il faut quand même un certain niveau de volume. Quand on est dans une petite structure, généralement, les agents ne sont pas très nombreux, il y a les superviseurs qui sont très proches. Là, la transcription des conversations est moins intéressante. Dès qu'on est à 25-50, là, tout de suite, ça devient très pertinent. Alors, comment ça se passe, hein? Comme tout à l'heure, hein, vous avez ici l'interface de centre de contact avec la gestion des mails, vous voyez sur la partie gauche, la gestion des mails, des téléphones, des chats, des réseaux sociaux, etc., etc. Vous avez au centre ici la fenêtre avec l'interaction qui a été effectuée, la classification et le champ commentaire que l'agent remplissait auparavant à la main. Et bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va lui fournir une transcription et un résumé juste en dessous, et cette transcription et ce résumé, il va le copier et il va en fait le mettre dans la partie commentaire, et lui après il fait ses propres remarques. Donc ça permet donc à l'agent d'être beaucoup plus efficace dans son travail. Voilà, de cet aspect, donc enregistrement des conversations, analyse des conversations, est également très utile au niveau du quality monitoring pour plusieurs choses. La première chose, en fait, c'est que si vous faites du quality monitoring, c'est-à-dire que le superviseur, le manager de l'équipe, écoute de temps en temps des conversations téléphoniques avec des solutions un petit peu traditionnelles, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait choisir des appels longs, par exemple plus d'une minute, moins d'une minute, etc. Puis il les écoutait, puis il faisait peut-être un avance rapide, etc. Mais bon, il devait quand même prendre un peu ses messages et les écouter. Ce qui est intéressant avec la partie IA générative, c'est tout simplement qu'on va voir ici, vous voyez sur votre droite, on va pouvoir avoir le détail de la conversation entre ce qui est dit entre l'agent et le client, tac, 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 ce qui lui permet de balayer immédiatement ce qui est intéressant et d'aller écouter éventuellement la partie où il y a un problème. Tiens, ça, et donc il va perdre moins de temps à faire de l'écoute. Ce qui est également intéressant, c'est que l'IA générative va permettre également de faire du contrôle qualité, en particulier les non-conformités. Par exemple, je vends du crédit au téléphone. Est-ce que l'agent a bien dit la mention légale en disant « Tiens, attention, vous avez un délai de rétractation de 7 jours, 8 jours, etc. etc. » Donc là, en fait, on va pouvoir vérifier que ça a été fait. Si ça n'a pas été fait, on va pouvoir identifier ces conversations et envoyer un message en proactif en disant « Tiens, voilà, n'oubliez pas, vous avez fait une demande de crédit, vous bénéficiez encore d'un délai de tel jour, tel jour, tel jour. » Voilà. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut également détecter des alertes juridiques. Par exemple, si les personnes disent « Ah non, vous êtes des incompétents, ça ne se passera pas comme ça, je vais en parler à Julien Courbet », et ben à ce moment-là, on détecte que « Ouh là là, il veut en parler à Julien Courbet », on envoie ça à la cellule réclamation, et la cellule réclamation s'empresse d'aller rappeler la personne derrière. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant au niveau du centre de contact. Alors, on a encore à peu près une dizaine de minutes ensemble. On va finir sur la partie « Est-ce qu'il faut de l'IA partout ?» C'est une question importante et que j'ai indiquée au départ. Pour nous, en fait, il ne faut pas faire de la techno pour la techno. Ce n'est pas de l'informatique pour de l'informatique. Ce n'est pas des innovations pour l'innovation. Non, il faut en fait penser innovation utile. Innovation utile, c'est quelque chose qui va apporter de la valeur et qui va permettre d'améliorer l'expérience client de l'entreprise ou la rentabilité de l'entreprise. Là, ici, on a un cas vraiment assez flagrant et que j'aime beaucoup citer. C'est le cas de Bouygues Telecom Entreprise. En fait, Bouygues Telecom Entreprise prend des appels en fait, de professionnels d'entreprise quand ils ont des problèmes techniques avec la fibre, avec le téléphone, les mobiles, etc. etc. Et c'est vrai qu'ils se sont dit, ben voilà, on va mettre en place un callbot qui va permettre de traiter une partie des demandes. Sauf qu'en fait, ben, les demandes du service technique, souvent, c'est des demandes un petit peu complexes. C'est-à-dire qu'on ne va pas redemander à la personne est-ce que vous avez branché, rebranché votre box, etc. etc. La personne, généralement, en entreprise, elle les connaît comme un petit peu son métier. Alors, pour un B2C, un particulier, ça peut être utile hein, de lui dire est-ce que vous vérifiez des bords, si vous avez rebranché votre box, est-ce que vous faites ça. Et pour un professionnel, bah, c'est un peu contre-productif. Et il s'est rendu compte que ce callbot, en fait, qui proposait des réponses, qui faisait une orientation, faisait en fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il baissait en fait la satisfaction des clients. Certes, une partie des appels étaient traités automatiquement, mais d'autres n'étaient pas traités automatiquement. Et au contraire, ça faisait perdre un petit peu de temps aux personnes. Donc, ça donnait de la frustration des clients. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Bouygues Telecom Entreprise a arrêté de mettre en place son callbot en amont des agents de services techniques parce que c'est des problèmes complexes. Et ils ont mis plutôt la vision assistance. Et là, la vision assistance, là, ça a eu un effet waouh. C'est-à-dire que ça a augmenté les NPS. Les gens étaient super contents parce que l'agent du centre de contact, donc avec la solution, va pouvoir dire « Ok, vous avez un problème avec votre fibre. Ah, attendez, on va lancer une visio. » À ce moment-là, en fait, la visio est lancée. La personne, en fait, prend son téléphone. L'agent, en fait, avec son téléphone, enfin, l'agent voit, en fait, ce que montre le client avec sa caméra. Donc, le client dit « Regardez, voilà ma box. Il y a ça qui ne va pas. Ah oui, il y a le fil qui est débranché. Il y a tel message d'erreur. » Ce qui permet de gagner du temps dans la résolution du problème, ce qui permet de montrer, en fait, donner des yeux à l'agent, parce qu'autrement, la personne va décrire oh, « bah oui, c'est le bouton qui est là, il clignote, etc. » Mais il clignote comment ? Ben là, en fait, on est beaucoup plus dans la simplicité et l'efficacité. Donc, ils ont comme ça amélioré le NPS, amélioré le first contact résolution, la résolution au premier appel. Donc là, c'est vraiment super intéressant et ça permet de gagner du temps. Voilà. Donc, c'est pour se dire que parfois, ce n'est pas forcément l'IA générative, la techno qui va donner plus d'efficacité, mais la demande classique. L'autre point également qu'on met en place, c'est parfois penser low-tech. Low-tech, qu'est-ce que c'est ? Le low-tech, c'est l'inverse de l'high-tech. L'high-tech, ce sont des solutions très techniques, des solutions qui nécessitent vraiment beaucoup de moyens, d'outils, de serveurs, etc. etc. Et bien en fait, tout simplement, avec le low-tech, on va faire des choses beaucoup plus pratiques, beaucoup plus concrètes qui se mettent en place beaucoup plus simplement. Et en particulier, le SV visuel. Par exemple, le SV visuel, qu'est-ce que c'est ? C'est vous êtes au téléphone en fait avec le service client, vous êtes en attente parce que y a un pic d'appel, parce que y a des injonctions qui ne sont pas disponibles. À ce moment-là, le bot ou le SVI classique va vous dire votre demande est bien prise en compte, vous avez X minutes d'attente. Est-ce que vous souhaitez recevoir une procédure pour être dépanné ? Et à ce moment-là, en fait, vous recevez un SMS qui vous envoie en fait vers une interface qui est optimisée pour le mobile et vous avez un tuto, vous avez un guide, vous avez une aide, etc., etc., qui vous aide à faire la manipulation. Et ça, on l'a remarqué, c'est super utile et beaucoup plus efficace pour certaines demandes. Toutes les demandes qui nécessitent de l'écrit sont beaucoup plus efficaces à être traitées par un SVI visuel que par un callbot. On peut mixer bien sûr les deux. Un exemple classique, vous avez perdu vos mots de passe, vous voulez par exemple vous connecter à votre espace de mutuelle, à votre espace d'assurance, à votre espace par exemple sur Enedis, à votre compte Enedis. Et bien en fait, vous dites, mais je ne me souviens pas de mon mot de passe, vous n'avez pas le courrier sous la main, qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez au téléphone parce que vous avez récupéré le mot de téléphone. Et bien en fait, tout simplement, avec le SV visuel, vous appelez au téléphone et on vous dit, cette demande-là, la demande de mot de passe, parce qu'en fait, on peut imposer aussi. On peut imposer en disant, tiens, les demandes de mot de passe, automatiquement, d'abord, on va envoyer un SMS en proposant à la personne de résoudre son problème en self-care. Donc, on lui envoie, on dit, pour cette demande de mot de passe, vous allez recevoir un SMS, vous avez un lien. Donc, ce qui est intéressant, et on l'a vu chez certains de nos clients, c'est qu'en fait, on met un lien qui est spécifique et unique pour le client. Donc, en fait, il va cliquer sur son lien qui est unique et spécifique pour lui. Donc, ça, c'est à mettre en place avec votre DSI. Et à ce moment-là, il peut réinitialiser son mot de passe et accéder à son espace client. Donc, bien sûr, avec avant un contrôle, avec une date de naissance ou un système de mot de passe, de département, de questions secrètes, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant et ça permet de gagner du temps. Ce qui est intéressant, c'est que ces solutions-là sont à peu près 5 à 10 fois moins chères que de l'IA générative, donc 5 à 10 fois moins cher, et pour un niveau de satisfaction qui est similaire, voire parfois meilleur, en particulier pour toutes ces demandes, par exemple, de suivi de colis. un suivi de colis aussi, c'est un peu compliqué de dire c'est le numéro X, Y, 25, A, B, machin, etc. etc. Bah, si on peut le faire de manière automatisée avec un bot, c'est mieux. Alors, bien entendu, on ne va pas non plus laisser la personne bloquée. Comme on disait, la technologie doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle peut très bien rester en ligne, recevoir son SMS et traiter sa demande en étant en ligne, et si elle résout sa demande avant avec le self-care, du SVI visuel, tant mieux. Si elle n'y arrive pas, elle reste en attente et elle peut discuter avec la personne. Ou alors, donc elle peut aussi être sur son interface optimisée et elle peut cliquer sur un bouton « Je veux parler à un conseiller parce que je n'ai pas réussi à résoudre ma demande ». Et à ce moment-là, en fait, elle est renvoyée dans la file d'attente, mais de manière prioritaire. Et c'est vrai qu'on a un cas pratique assez intéressant avec AG2R La Mondiale. Donc, eux, en fait, ils l'ont mis en place pour absorber le pic d'appel des cartes de tiers payants, donc qui permet d'avoir une alternative au téléphone. Grosso modo, en fait, ils peuvent imposer. Donc, lors des pics d'appel, c'est imposé. La demande de carte de tiers payant impose, en fait, d'avoir un SMS. On dit, voilà, vous traitez votre demande, etc. Soit en dehors des pics d'appel, en dehors de la saisonnalité de fin d'année, bah, c'est proposé en option. Et bien, en fait, le client, comme ça, il a les informations pour le traiter lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que, grosso modo, 55% des appels qui sont traités comme ça par ce système de SVI visuel sont automatisés et traités de manière automatique. Alors, on peut se dire, il y a encore 45% des appels qui doivent passer par des agents, mais c'est souvent parce que c'est des demandes un peu plus complexes. Donc, on voit bien que cet outil-là, qui est, on va dire, 10 fois moins cher que du callbot qui se met en place, on va dire, en 2 semaines, contre un délai de 2 mois, 3 mois pour un callbot. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est simple, moins cher et qui permet d'avoir une satisfaction importante. Le dernier point que je voulais parler, que je voulais évoquer, c'est cet aspect écologique avec l'impact de l'IA générative. On parle beaucoup d'IA générative, on pose des questions à ChatGPT, c'est sympa, c'est drôle, etc. Mais on ne voit pas en fait le coût caché. Le coût caché, parce qu'en fait, si vous utilisez ChatGPT, c'est gratuit. Sauf qu'en fait, il y a un vrai prix de l'IA générative, à la fois économique, donc le prix des serveurs, etc. Pour l'instant, vous ne payez pas le vrai prix, alors qu'il devrait être nécessaire de payer. Mais la chose la plus importante pour nous, parce que Eloquent est une entreprise avec une démarche RSE importante, on cherche vraiment à avoir la meilleure solution, à la fois pour le client, mais pour la planète. Et bien, en fait, on se rend compte que l'IA générative coûte très cher. Entre 5 et 50 questions à ChatGPT, selon la saison, ça coûte en fait 0,5 $. Il y a même certaines régions aux États-Unis en particulier qui disent non, nous on veut plus de serveurs pour l'informatique, parce qu'en fait, c'est soit on donne à boire aux serveurs, soit on donne à boire à nos citoyens. Donc en fait, il y a vraiment un coût écologique important avec l'IA générative. Un autre point, par exemple, si vous générez une image avec une IA générative qui n'est pas très bien optimisée pour cela, ça peut coûter l'équivalent d'un chargement complet de batterie. 1000 textes générés avec l'IA générative, c'est également 16% d'un temps de chargement de batterie. Donc il faut vraiment utiliser l'IA générative de manière consciente. Et en fait, de se dire, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà. Donc, c'est vraiment essentiel de penser à ça. La techno, c'est bien, mais pensez également à l'impact et au coût technologique. J'en ai quasiment fini. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais les prendre dans quelques secondes. Ce qu'il fallait retenir, en fait, c'est que l'IA générative, pour nous, était une véritable révolution dans la relation client. Je vous ai parlé et je vous ai dressé le point sur l'aspect écologique, mais c'est comme tout quelque chose, un vrai plus et une vraie avancée au niveau du traitement automatisé et du self-care. Chatbot, callbot, voix automatisable, tout cela, en fait, ce sont des technologies qui vont permettre d'améliorer l'expérience client, de réduire les temps d'attente et de simplifier les parcours clients. Donc après, le sujet, c'est de dire où, en fait, mettre en place l'IA et l'IA générative. Tout simplement, c'est de dire bah, quelle est ma priorité. Est-ce que je vais absorber des pics d'appels? Est-ce que je vais aider mes agents à être plus efficaces, etc., etc. Donc, sélectionner l'innovation utile, valider en fait que ce ROI est intéressant et qu'il est au rendez-vous. En fait, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Avec l'IA, c'est dire, OK, je mets en place un test sur un périmètre limité, sur un pilote, etc., etc. Et ensuite, si ça marche bien, hop, je vais l'industrialiser. Voilà, c'est ce qui compte essentiel, c'est l'efficacité et l'expérience client.